Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Question d'actualité tout de suite. Thierry Santa a annoncé officiellement sa démission. Ce n'était pas une surprise. C'est l'ancien président du Rassemblement. Il a été président du gouvernement, président du Congrès. Vous comprenez cette démission ?
Oui, enfin, je pense que Thierry en avait parlé depuis quelques temps déjà, mais bien sûr, on le laissait organiser lui-même son annonce. Je pense que, bon, bien sûr, il l'a exprimé ce matin, c'est un choix personnel. C'était une route commune avec Thierry pendant de nombreuses années, effectivement, vous avez raison de le dire, au sein du Rassemblement. Je saluais son engagement, hein. Il a été effectivement président à la fois du gouvernement et du Congrès dans des moments difficiles pour la Nouvelle-Calédonie, hein, des épreuves nombreuses. Et puis, je voudrais dire que, voilà, souvent, les Calédoniens, on jette parfois l'opprobre sur les élus en disant « oui, la soupe est bonne, c'est facile, etc. »
C'est fréquent, oui, c'est même très à la mode pour l'instant.
C'est assez fréquent, et je veux dire que c'est difficile d'être élu. Et en fait, dans nos vies professionnelles antérieures, nous avions beaucoup plus de facilités, hein, à la fois des facilités matérielles dans nos rémunérations, mais aussi moins de difficultés à affronter. Et donc, c'est un engagement difficile. Et c'est vrai que le mandat s'est prolongé, et donc la volonté, sans doute, de Thierry, c'était de s'arrêter au moment prévu. Et ainsi, en tout cas, je lui souhaite vraiment beaucoup de réussite. Et je n'en doute pas dans cette nouvelle responsabilité professionnelle qui sera la sienne désormais.
Ça fait un représentant du Rassemblement de moins au sein du gouvernement. Mais là, vous travaillez ensemble aujourd'hui avec les loyalistes.
Oui, vous savez, on est dans une fin de mandat. Il ne reste plus que 6 mois désormais. Alcide Ponga, évidemment, est assez triste, hein, de perdre Thierry Santa, qui était en charge du budget et qui était efficace. Je dois dire que ça a été vraiment très important pour nous d'avoir Thierry dans ces 6 derniers mois, puisqu'il connaît parfaitement la mécanique budgétaire. Et ça permettait, au niveau du Congrès, d'avoir des informations très claires et très précises sur cette chose très compliquée qu'est le budget de la Calédonie aujourd'hui et de l'état de nos finances publiques. Donc je pense que vraiment il nous a accompagnés, aidés pour faire en sorte que toutes les informations soient là et que les choix finalement opérés soient les bons dans cette période de crise que nous connaissons.
En fin de mandat, dites-vous, mais c'est une fin qui ne se termine pas puisque la loi organique qui reporte les élections provinciales au plus tard au 28 juin 2026 a été adoptée par le Parlement. Donc le mandat va durer encore plusieurs mois. Mais vous êtes soulagé de ce report ?
C'est important parce que, en fait, s'il n'y avait pas eu ce report, ça voudrait dire qu'au niveau national, la représentation nationale choisissait de donner raison à la branche la plus radicale des indépendantistes, qui est le FNKS mode actuel, dans sa nouvelle composition. Et finalement, ce FNKS qui n'a jamais proposé de solution ces dernières années, qui soit a boycotté les discussions à certains moments, soit a été là, mais a remis en cause sa signature, qui souvent, hélas encore, brandit la menace auprès des Calédoniens, alors que nous sommes dans une situation si difficile pour tout le monde. Donc, s'ils avaient fait ça, ça voudrait dire que c'était une minorité active qui n'est pas dans ce compromis et dans ce consensus qui est nécessaire pour la Calédonie, qui emportait la partie, qui marquait le point. Et donc c'est important que ce soit toutes les autres forces modérées qui ont travaillé à faire réciproquement des compromis, des avancées, des pas les uns vers les autres pour à Bougival poser cet accord et qui finalement... Eh bien, emporte la victoire de ce report qui n'est pas une durée supplémentaire pour rien, qui est une durée pour mettre en place la voie de l'accord.
On va en parler justement, on va revenir également sur l'adoption de cette loi, le processus législatif qui a été quand même un peu agité et plein de rebondissements. Mais pour que les choses soient bien claires, le Conseil constitutionnel doit se prononcer, la loi doit être promulguée avant le 2 novembre, a priori, c'est quand même très bientôt. Il n'y aura pas d'élection au mois de novembre, maintenant on en est sûr.
Oui, objectivement, je ne vois pas le Conseil constitutionnel remettre en cause ce vote du Parlement français sur ce report de quelques mois à peine pour mettre en œuvre l'accord. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre en procédure d'urgence, ça veut dire qu'il a 8 jours pour donner réponse. Nous serons donc très rapidement fixés.
Alors cette adoption, je le disais, a été quand même un petit peu mouvementée et elle pose un certain nombre de questions. Alors, d'abord, il y a eu à l'Assemblée nationale ce mur d'amendements déposé par la France insoumise, hein, près de 2000, enfin 1600 et des poussières. Ça a été une surprise, on n'avait pas vu venir cette obstruction parlementaire de la part de la France insoumise.
Alors très objectivement, le fait que la France insoumise essaye de mettre le bazar sur le dossier calédonien est tout sauf un scoop. Voilà. Moi, je considère qu'il y a une très forte instrumentalisation du sujet calédonien. Vous allez sur la page Facebook de M. Lachaud. En fait, vous n'avez que la Nouvelle-Calédonie comme seul sujet, alors qu'il est quand même député d'une circonscription métropolitaine, ce monsieur. Donc c'est assez incroyable. Et c'est triste parce que c'est une instrumentalisation politique au plan national de notre sujet calédonien qui nécessite au contraire qu'il n'y ait pas cette instrumentalisation, car notre situation est si difficile et mérite tellement d'efforts pour trouver une solution pour l'ensemble des Calédoniens, quelles que soient leurs convictions. Donc moi, je regrette que le FLNKS soit, pour moi, très, très instrumentalisé et manipulé par la France insoumise, qui est finalement dans une stratégie du chaos et qui veut importer ici, en Nouvelle-Calédonie, cette stratégie du chaos.
Alors, face à ces amendements, il y a eu la riposte parlementaire de la majorité avec cette motion de renvoi en commission, enfin de rejet, qui fait que la commission mixte paritaire s'est réunie pour examiner la proposition de loi organique. Et là, il y a eu une modification de l'intitulé. Auparavant, la proposition de loi visait au report pour permettre la poursuite de la discussion sur l'accord du 12 juillet 2025 et sa mise en œuvre. L'accord du 12 juillet 2025, c'est évidemment l'accord de Bougival. Après le passage en commission mixte, le report est désormais justifié pour permettre la poursuite de la discussion en vue d'un accord consensuel sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. On ne fait plus du tout allusion à Bougival. Qu'est-ce que ça change ?
Bon, écoutez, c'est un titre, ça ne change pas grand-chose sur la lettre. C'est une demande, vous l'imaginez bien, des socialistes qui souhaitaient montrer qu'il n'y avait pas de passage en force. Vous savez, il y a quand même 53 socialistes à l'Assemblée nationale qui ont voté ce texte. C'était des voix importantes pour pouvoir avoir une majorité sur ce report des élections provinciales et donc discuter pour un accord. Bon, les socialistes, ils sont dans leur ADN. Hein. Eux, ils veulent un accord à tout prix pour la Nouvelle-Calédonie. Et par ailleurs, ils sont embêtés que le FNKS se soit démis de l'accord parce qu'ils pensaient, en tout cas pour ce qui est du chef de groupe Arthur Delaporte de l'Assemblée, mais même du côté du Sénat, que l'accord de Bougival était un bon accord. En tout cas, c'était ce qui leur semblait. Ça les gêne beaucoup qu'il y ait une partie du monde indépendantiste qui se soit retirée des discussions et du travail après Bougival et qui ait remis en cause leur signature. C'est la raison pour laquelle ils ont demandé cette modification.
C'est ce qui les a convaincus de voter le texte. Sans ça, ils ne l'auraient pas voté.
Oui, ils avaient effectivement probablement sans doute cette exigence. Et de façon à ce que le texte soit voté pour avoir une majorité, l'ensemble des parlementaires ont choisi de modifier ce texte. Mais au fond, moi je veux dire qu'il n'y aura pas d'accord consensuel qui se détachera significativement de ce que nous avons fait comme compromis à Bougival, parce que de notre côté à nous, nous avons fait beaucoup de pas du côté des partisans de la France. Quand on accepte que la Nouvelle-Calédonie, eh bien, ça soit l'État de la Nouvelle-Calédonie, certes au sein de la République française, quand on accepte qu'il y ait une nationalité calédonienne pour laquelle nous n'étions pas demandeurs, certes, si vous voulez renoncer à la nationalité française, vous perdez de fait la nationalité calédonienne. Donc on voit bien que ce sont deux nationalités complètement imbriquées l'une dans l'autre. Quand on accepte qu'il y a un mécanisme sur les compétences régaliennes, on fait beaucoup, beaucoup de pas. À l'inverse, de l'autre côté, on a accepté qu'il n'y ait plus de référendum, oui ou non, à l'indépendance, qui, à chaque fois, a divisé les Calédoniens à deux paquets égaux, comme le disait très justement Michel Rocard. Et il concluait, Michel Rocard, en disant « à chaque fois que l'on fait ça, eh bien, on oblige les Calédoniens à être face à face et à se retaper dessus ». Donc nous ne voulons plus ces référendums qui fracturent la Nouvelle-Calédonie. D'ailleurs, le Rassemblement a toujours été pour un accord et voulait même éviter même le premier référendum. En vrai, c'était notre philosophie. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Nous serons au rendez-vous de l'État, des indépendantistes, le Rassemblement, et je n'ai aucun doute que les loyalistes également, pour faire valoir le fait que notre marge de manœuvre aujourd'hui, eh bien, je considère qu'elle est pas du tout large, parce que nous avons fait les pas utiles et nous attendons qu'on fasse ces pas non seulement soient à la fois reconnus, et ils l'ont été à Bougival, mais aussi qu'eux-mêmes soient capables de s'engager. Et la vraie question, excusez-moi Isabelle d'être un peu longue, mais la vraie question qu'il faut savoir, le FNKS veut-il un accord ? Veut-il réellement un accord pour la Nouvelle-Calédonie ? Je pense que la ministre devra leur poser la question.
Mais alors cet accord consensuel, pour que les choses soient claires, puisque maintenant c'est bien mis dans la loi qu'il s'agit de rechercher un accord consensuel, c'est en fait un Bougival amélioré, complété, modifié, mais en gardant les équilibres qui ont été trouvés le 12 juillet.
Oh ben les équilibres ne peuvent pas être trahis, ne peuvent pas être trahis, mais vous avez raison, il y a l'accord, et puis il y a la précision, la rédaction de l'accord, donc il y a tout ça, donc il y a ces travaux à mener. D'ailleurs, l'Union nationale pour l'indépendance a toujours dit au FLNKS qu'ils étaient, ils pouvaient être autour de la table pour continuer à travailler, à préciser, à apporter la pierre sur ces grands principes fixés dans l'accord du 12 juillet.
Alors, pour revenir à l'adoption du texte à l'Assemblée, il y avait un vrai suspense, on en parlait, le vote des socialistes était un peu déterminant, le texte a été adopté par 279 voix contre 247, alors que la majorité absolue était à 264, très serré donc. Les députés du Rassemblement national ont voté contre, est-ce que vous avez eu les uns et les autres des contacts avec eux et comment se justifie, selon vous, ce rejet du texte par le Rassemblement national ?
Oui, alors juste avant de vous parler du Rassemblement national, vous disiez finalement les socialistes étaient déterminants, mais il y a un autre groupe de l'Assemblée nationale qui était déterminant, c'est le groupe Union des droites d'Éric Ciotti et c'était 17 voix.
Union de la droite républicaine.
Union de la droite républicaine, pardon, excusez-moi. Tous les acronymes, au bout d'un moment, on a un peu du mal. Mais bref, Éric Ciotti, qui, avec ses 17 voix, finalement, fait la bascule d'un côté à l'autre. Parce qu'il y a 32 voix d'écart au final. Ça veut dire que c'est à 16. Si 16 étaient contre au lieu d'être pour, ça faisait basculer. Et lui, c'est 17 voix pour. Finalement, le report des élections provinciales sont des voix déterminantes. Et moi, j'ai beaucoup, effectivement, ces dernières semaines, discuté avec Éric pour lui faire comprendre les enjeux de ce report et à quel point ne pas voter ce report donnait le point aux plus radicaux des indépendantistes.
Éric Ciotti, qui est très proche, enfin qui s'est rapproché aujourd'hui du Rassemblement national.
Et bien sûr, Éric Ciotti, qui est même en travail commun avec le Rassemblement national, et donc pour lequel, enfin auprès duquel j'ai agi aussi pour qu'il intervienne, notamment auprès de Marine Le Pen. Et puis on a travaillé aussi avec des gens proches de Marine Le Pen pour essayer de faire passer le message et faire comprendre que ne pas vouloir le report, c'était exiger que des élections provinciales se tiennent en novembre sur un corps électoral gelé. Comment quelqu'un qui défend la démocratie, qui défend une Calédonie dans la France, peut à nouveau accepter qu'une nouvelle élection provinciale se tienne en excluant des milliers de Français, mais je devrais dire de Calédoniens français, Français-Calédoniens, parce que ces personnes sont là depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie, qui sont exclus du vote, mais aussi des enfants nés en Nouvelle-Calédonie. Comment accepter ça ? Et donc, pour votre réponse sur la position du Rassemblement national, celle-ci est incompréhensible à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie.
C'est une volonté de rejet de Bougival. En fait, elle avait dit que c'était un accord ambigu, mais en fait, elle veut pas de l'accord de Bougival. Est-ce que ce sont des motivations nationales pour ne pas porté par la majorité.
Je crains que nous soyons sacrifiés par Marine Le Pen sur l'autel de l'enjeu national, d'une opposition systématique au gouvernement actuel, à la politique qui est menée. Et donc, hélas, nous avons été jetés avec l'eau du bain, quoi. Et malheureusement, enfin, pour les 264 000 habitants de ce pays et pour les milliers de Calédoniens qui sont partisans de la France et qui, en plus, pour certains d'entre eux, faisait confiance à Marine Le Pen, parce que le score de cette personnalité en Nouvelle-Calédonie, notamment lors des élections présidentielles, évidemment, eh bien, ne sont pas des scores minces. Donc c'est très triste, je crois, et je pense que c'est très décevant pour un grand nombre de Calédoniens.
Dans votre famille politique, enfin, les LR, il n'y a pas eu de problème ? Tout le monde soutenait le report des élections ? Alors, il a fallu en convaincre certains ? On sait que c'est un peu tendu pour l'instant entre les différents responsable de LR entre Retailleau et Wauquiez, entre...
Alors certes, mais pour autant, la Nouvelle-Calédonie est vraiment protégée par l'ensemble de la famille de la droite républicaine, les Républicains, droite républicaine à l'Assemblée. Puisque vous le savez, c'est Mathieu Darnaud au Sénat qui a commencé à rédiger la proposition de loi organique de report qu'il a soumise à l'ensemble de ses collègues chefs de groupe. Et c'est ainsi qu'il a obtenu 6 groupes signataires de cette loi organique au Sénat. Au Sénat où nous avons un très grand nombre de sénateurs de la droite républicaine, des Républicains. Et donc l'initiative vient du Sénat de Gérard Larcher, de Mathieu Darnaud, qui a su fédérer l'ensemble des groupes, dont d'ailleurs les socialistes au Sénat. C'est pour ça que le vote des socialistes à l'Assemblée était quand même prévisible en faveur du report, puisque leurs propres collègues avaient aussi signé au Sénat ce texte. Et aucune voix n'a manqué, effectivement, du côté de la droite républicaine à l'Assemblée. C'est vraiment, nous, du côté LR, vraiment, on est au carré sur la Nouvelle-Calédonie. C'est une famille politique qui ne trahit pas, là, la Calédonie française et qui est très, très sensibilisée à ces sujets.
Alors, une adoption serrée à l'Assemblée nationale très large au Sénat, on le savait, hein, c'était une simple formalité, vous venez de l'expliquer. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc les provinciales sont reportées au plus tard au 28 juin 2026, mais la question qui se pose déjà, c'est sur quel corps électoral? On avait dit qu'il ne faut pas que ce soit en novembre, parce que le corps électoral sera gelé. Est-ce que le corps électoral va être réouvert d'ici juin 2026?
Bah écoutez, le report, il est là pour mettre en place l'accord. L'accord prévoit à l'intérieur de nombreuses choses que j'évoquais tout à l'heure, de nombreux principes, mais aussi, effectivement, l'ouverture du corps électoral. Parce qu'on ne parle pas, contrairement aux rumeurs, de 7 millions de Français qui débarqueraient en Nouvelle-Calédonie. Hein, il faut arrêter les fantasmes. On parle, en tout, de 42 000 personnes en Nouvelle-Calédonie qui sont privées de ce droit de vote aujourd'hui, dont 12 000 enfants de la Nouvelle-Calédonie, nés en Nouvelle-Calédonie. Les 30 000 autres personnes sont installées depuis très nombreuses années. Ce qui est prévu dans Bougival, c'est que pour les prochaines élections provinciales, sur ces 30 000 personnes qui sont exclues, seules celles qui justifient de 15 ans de présence en Nouvelle-Calédonie, eh bien, puissent voter. C'est ça qui est prévu. Donc c'est une partie, hein, c'est peut-être 12 000 personnes à peu près, 12-13 000 personnes sur ces 30 000. Voilà, donc effectivement, nous, maintenant, nous attendons de la part de l'État de la détermination, de la fermeté à mettre en place l'accord. Nous avons, du côté calédonien, fait notre travail. Certains ont remis en cause leur signature, mais représentent finalement quand même une minorité de l'échiquier politique calédonien. Il s'agit que l'État demande au FNKS ce qu'il veut exactement, parce que personnellement, et je crois que je ne suis pas la seule, j'ai beaucoup de mal à décrypter la stratégie du FLNKS nouvelle version, beaucoup, beaucoup de mal. Que veulent-ils pour la Nouvelle-Calédonie? Veulent-ils un accord? Sont-ils prêts à des compromis? Ou alors, leur seul credo, c'est Kanaki 2025 ou 2027 et point barre. Que l'on sache, nous serons fixés, mais il n'est pas question pour nous qu'un seul mouvement politique handicape l'ensemble des Calédoniens pour leur avenir et ne leur permette pas de dégager l'horizon.
Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, Bougival n'est pas affaibli, n'est pas remis en cause avec le fait, on le disait, que son nom n'apparaisse plus, sa référence, qu'il n'y ait plus de référence à l'accord du 12 juillet dans la loi. Ce sont des détails, ça ne change rien, l'accord de Bougival poursuit sa route.
Écoutez, la question que vous posez, c'est une question qui devrait véritablement être posée à Madame Moutchou, la nouvelle ministre des Outre-mer, et à l'État,
on va
et au Premier
poser.
Ministre. Et j'espère bien que vous lui poserez. Du côté de la représentation nationale, les votes de report ont eu lieu très massivement au Sénat. Et c'était pour mettre en œuvre l'accord. Et il y en a une majorité également à l'Assemblée nationale. Le président Larcher a dit oui à Bougival. Maintenant, du côté du gouvernement français, ce nouveau gouvernement, que veut-il exactement? Est-ce qu'il veut mettre en place la voie de l'accord et le continuer coûte que coûte? Ce sera la question que nous poserons à notre nouvelle ministre de l'Outre-mer.
Alors justement, il y a eu aussi une petite confusion cette semaine. Alors bon, on n'en a pas trop parlé parce que c'est un peu compliqué. C'est un peu de la cuisine parlementaire dans le calendrier de Bougival. Il était prévu la loi organique, ça y est, c'est fait. Et puis la loi constitutionnelle, surtout, qui a déjà été présentée en Conseil des ministres avec une réunion du Congrès de Versailles. Elle était prévue à l'origine en décembre. Finalement, le gouvernement a inscrit le texte au mois de janvier et il l'a finalement retiré. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vous expliquez cette confusion?
Ça brouille les pistes.
Bah oui,
ça
oui.
Brouille les pistes. Donc, il faut dire au gouvernement français, à un moment donné, de tenir un cap. Nous, on est, nous, les non-indépendantistes partisans de la France, nous tenons, nous avons fait notre travail, nous sommes engagés, nous avons fait des efforts et des compromis. Une partie des indépendantistes, et je pense à l'UPM et au PALICA, ont pris leur part de risque et de responsabilité en défendant cet accord et en ne reniant pas leur signature. Que fait l'État? C'est le troisième partenaire, je vous rappelle, c'est pas juste un greffier ou celui qui est l'arbitre de la partie entre deux camps. Ça n'est pas ça, c'est un partenaire des accords. À chaque fois, que fait l'État? Et cette position qui devrait être clarifiée, moi je ne comprends pas très bien qu'on ait retiré la loi constitutionnelle. Je ne vois pas quelle est l'utilité d'avoir retiré cette loi constitutionnelle dans le contexte qui est le nôtre. Là, et alors peut-être c'est pour faire en sorte de montrer qu'il y a une volonté d'ouverture, de discussion à nouveau de l'accord. Mais attention, attention, ne perdons pas tous les modérés qui ont fait les compromis, qui se sont engagés, qui ont pris leur part de risque. Vous savez, nous, on a défendu Bougival. Moi, depuis que je suis rentrée, ce sont des milliers de Calédoniens que j'ai vus pour aller expliquer, hein, parce que du côté de notre camp à nous, ça n'était pas très simple d'expliquer qu'après trois noms à l'indépendance, nous avions fait les pas que nous avions faits. Voilà. Donc, il n'est pas question de repartir de Bougival pour aller plus loin encore dans la négociation. Il faut véritablement que le FNKS, qui est sorti, là, finalement, de la signature et des discussions, affirme ses réelles intentions.
Donc vous demandez au gouvernement la convocation du Congrès de Versailles, enfin le lancement de la procédure de réforme constitutionnelle le plus vite possible.
On demande à la ministre de venir ici travailler, de clarifier les choses avec certains interlocuteurs, que nous nous remettions tous au travail en effet, et puis qu'ensuite on aille vers ça. Sinon, si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, moi, au Rassemblement en tout cas, nous serions d'accord à ce qu'on consulte les Calédoniens et que ce soit eux les juges de paix. On les consulte sur l'accord de Bougival et c'est eux qui décident si oui ou non on met en place cet accord de Bougival.
Parce que dans le calendrier actuel, ça va être compliqué. La consultation des Calédoniens, ça devait être en février. Si la loi constitutionnelle n'est pas adoptée, on peut quand même consulter les Calédoniens.
Oui, il faudra une loi pour consulter les Calédoniens, pour les convoquer pour des élections. Mais on peut très bien, effectivement, consulter les Calédoniens qui sont les juges de paix et que ceux qui sont contre cet accord, eh bien, à ce moment-là, fassent campagne pour dire aux gens de ne pas voter l'accord, que ceux qui soient pour. Et puis, finalement, ça remettrait la parole vers la population, vers le peuple, comme certains aiment bien à le dire. Et c'est eux qui choisiraient. Les Calédoniens, nous serions tous les juges de paix sur cet accord.
C'est une proposition que vous allez faire à la ministre des Outre-mer, éventuellement ?
Je lui ai déjà faite. Avec Alcide Ponga et Pascal Vittori, nous l'avons eu en visioconférence il y a quelques jours de cela, et nous lui avons dit, si nous ne nous en sortons pas et que le FNKS ne veut rien entendre à ce moment-là, soumettons ce choix à la population et demandons à la population de choisir elle-même.
Alors la ministre des Outre-mer qui arrive donc, qui commence sa visite lundi en Nouvelle-Calédonie, elle s'est déjà exprimée à plusieurs reprises, elle a répété notamment... On ne fera pas sans le FLNKS, mais le FLNKS ne doit pas faire sans les autres. C'est un message qui vous plaît, qui vous semble audible, que le FLNKS peut entendre ?
J'espère qu'il peut l'entendre, mais c'est sûr qu'on a l'impression à ce stade que le FLNKS fonctionne seul.
Mais quand on dit on ne peut pas faire sans le FLNKS, c'est un peu la ligne officielle, c'est ce que disait également Manuel Valls, hein, on ne peut pas faire Bougival sans le FLNKS. C'est un élément que vous intégrez ou vous pensez que non, il faut y aller, même si le FLNKS ne veut pas y aller.
Je vous rappelle que le FLNKS a signé Bougival. Donc nous n'avons pas fait Bougival sans le FLNKS. Oui, mais on ne s'en sort pas. Si vous voulez, à un moment donné, la parole politique, elle a du sens. On ne peut pas comme ça, systématiquement, signer un accord. Vous savez, nous, à DEVA, nous étions contre. Mais nous ne l'avons pas signé, cet accord. Nous avons dit non et nous n'avons pas signé. À Bougival, on a un accord des jours et des heures de négociation, de discussion non-stop. Nous signons tous un accord. Tout le monde est parfaitement au courant de ce qu'il y a à l'intérieur de cet accord. Nous faisons jusqu'au dernier moment, le dernier jour, des pas, puisque c'était 10 ans pour le corps électoral en 2026 qui était prévu. Le FNKS lui-même et l'UNI nous disent que c'est compliqué 10 ans. On préfère 15 ans sur la durée du corps électoral. Nous faisons encore cette ultime concession sur ces histoires de corps électoral. Vous imaginez 15 ans, c'est très long comme durée. Bien, tout cela pour ensuite qu'on ait une signature de tout le monde et qui ensuite est remise en cause. C'est pas possible. On ne peut pas fonctionner comme ça.
Mais alors, est-ce qu'on peut
peut pas faire comme si Bougival n'avait pas existé.
Vous pensez pouvoir vous ou d'autres le ramener à la table des discussions, le FLNKS, ou le processus va se poursuivre en le laissant sur le bord du chemin ?
Non, moi je considère que l'État doit faire son travail vis-à-vis du FLNKS. Il doit faire son travail en lui demandant quelles sont ses intentions. Souhaite-t-il un accord ? Je leur pose moi-même la question. Le FLNKS souhaite-t-il un accord pour la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens ? Il faut qu'ils clarifient leur position. On ne sait pas très bien finalement chez eux. Puis vous savez, il y a aussi autre chose. À un moment donné, nous, ça fait quand même des mois et des années maintenant qu'on discute. À un moment donné, que le FLNKS, nouvelle version, nous dise qui sont ses représentants. Parce qu'on a une délégation, puis le jour d'après, sa délégation, elle est démise et elle est remise en cause. Et finalement, on s'assoit sur ce qu'elle a fait. Donc à chaque fois, personne n'a un mandat. Donc qui a un mandat là-dedans, quoi ? Et qu'à un moment donné, ils précisent les choses et qu'il y ait des interlocuteurs qui respectent leurs paroles, qui engagent à la fois leurs paroles et les gens qu'ils sont censés représenter.
Alors est-ce que le nouvel interlocuteur pourrait être le président du FLNKS, Christian Théien, qui maintenant est autorisé à rentrer en Nouvelle-Calédonie ? Est-ce que... Il pourrait être autour de la table de discussion.
Vous savez, nous, on a toujours, côté Rassemblement, été très très clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré que ce n'était pas à nous de choisir qui était le représentant d'un parti politique en face de nous. Ce n'est pas à nous. Nous ne laisserons personne dicter au sein du Rassemblement qui a vocation à représenter le Rassemblement et avoir un mandat pour éventuellement signer un accord. Donc nous avons toujours été clairs là-dessus. Ce que nous avons dit que Christian Théien, aujourd'hui d'ailleurs, a été... en préventive et emprisonné pour cela, a de lourdes charges qui pèsent sur lui et que la justice l'incrimine. Et donc, il y aura sans doute le procès de Christian Théien pour savoir quels sont les chefs d'accusation qui sont réels, et est-il sanctionné pour ce qu'il a fait. Cette personne était à la tête de la CCAT, une organisation qui a été à l'origine, en tous les cas, c'est elle qui a organisé toutes ces mobilisations, de milliards de dégâts en Nouvelle-Calédonie, de personnes dont la vie a été brisée, de personnes qui ont perdu leur maison, certaines leurs entreprises, et donc par respect pour ces hommes et ces femmes et ces Calédoniens, nous avions dit que nous ne voulions pas être assis à côté de Christian Théin. Nous l'avions dit avec les loyalistes à Bougival, nous l'avons dit à plusieurs reprises. Mais si, à un moment donné, sa signature devait être posée par les responsables du FNKS, nous n'avions pas d'objection spécifique à cela. Je veux être très claire là-dessus. Mais nous avions le respect des hommes et des femmes en Nouvelle-Calédonie qui ont beaucoup souffert de ce qui s'est passé. Maintenant, au-delà de ça, donc au-delà de cette position qui est très claire, me semble-t-il, nous avons l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie. Donc si pour le FNKS, ça c'est leur représentant, c'est leur problème. Nous, ce qui est nécessaire, c'est qu'ils aient chez eux des gens qui aient un mandat et qui soient crédités d'une responsabilité et que ça ne soit pas juste finalement des marionnettes qui ne font que passer, excusez-moi, cette expression est un peu péjorative, mais qui signent, puis finalement, non, on te dit non, ta signature, elle n'est pas bonne, enfin, c'est pas possible.
Alors la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, arrive à partir de lundi, vous êtes déjà entretenue avec elle, vous le disiez par visioconférence, quelle est votre impression, même si c'est un peu délicat, un peu difficile, c'est pas la personne qu'il faut juger, mais je veux dire, est-ce qu'elle met ses pas dans ceux de Manuel Valls, est-ce qu'elle va arriver à s'emparer du dossier calédonien qui est quand même un peu complexe? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Oh, mais je sens que Madame Moutchou, et vous avez raison, ça n'est pas un sujet de personne, mais est motivée et engagée à essayer de faire bien et préoccupée hein, par ce sujet calédonien. C'est compliqué, hein, parce que c'est un sujet quand même... Nous sommes des gens très compliqués en Nouvelle-Calédonie. Nos sujets sont extrêmement complexes. Je veux dire, rien que le sujet du corps électoral. Vous savez, un jour, moi, je faisais une présentation sur le corps électoral et il y a un professeur d'université qui est venu me voir en me disant « Vous êtes de quelle université, Madame, en droit public ?» Je lui ai dit « Bah non, en fait, je suis calédonienne et en fait, je connais bien ce sujet. » En fait, nous, même les profs de droit, des fois, ils ne comprennent pas bien. Il y a nos étudiants qui vont en France et quand leur prof de droit explique le corps électoral calédonien, ils se trompent. Et nos propres étudiants disent, ils ont levé la main et puis ils ont dit « Non, monsieur, c'est pas comme ça le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. » Donc, on a des sujets extrêmement complexes. Manuel Valls en était emparé. Il connaissait sur le bout des doigts l'ensemble des problématiques. On avait travaillé avec lui la loi constitutionnelle. Voilà,
Madame Moutchou, c'est... Vous regrettez qu'il ne soit plus là ?
Bah, en tous les cas, je l'ai dit d'ailleurs, je l'ai affirmé, non pas que je partageais ses idéaux et ses idées sur bon nombre de sujets, mais en tous les cas, je considérais que c'était une erreur d'enlever Manuel Valls dans cette période décisive pour la Nouvelle-Calédonie, à la croisée des chemins. Donc, nous verrons, et j'espère que Madame Moutchou s'en sortira dans cet épineux dossier calédonien et dans nos sujets si complexes. Nous sommes là en accompagnement, nous voulons aller vers cet accord, nous voulons sortir les Calédoniens de la situation difficile dans laquelle ils sont. Nous voulons un État ferme aussi. Nous voulons un État qui dise ce qu'il veut et qui ne soit pas à changer d'avis tous les quatre matins. À un moment donné, il faut avancer. Donc je ne sais pas quelle est la position du président de la République vis-à-vis de la mission que Madame Moutchou fera dès lundi en Nouvelle-Calédonie. Nous espérons une fermeté, un cadre. Il y a le train qui avance, là, nous sommes tous là. Et à un moment donné, si éternellement vous avez quelqu'un qui ne veut pas monter dedans, ça ne peut pas... handicaper l'ensemble des Calédoniens et finalement empêcher leur avenir.
Alors, Naïma Moutchou qui a également dit qu'elle voulait répondre à la situation économique. Elle prépare, dit-elle, un plan d'investissement et de redressement pour le territoire. C'est lié, on l'imagine, au plan de refondation économique et sociale sur lequel travaille la mission interministérielle de Claire Durieux. Vous attendez des réponses précises à l'occasion de ce voyage parce qu'on a l'impression qu'il y a des tas de déclarations d'intention, mais que ça avance pas vraiment sur le plan économique.
Oui, en effet, nous sommes des enfants de la République. Nous avons choisi de rester français. L'État n'était pas à nos côtés au début des émeutes, lorsqu'elles ont commencé, ce qui a fait que les émeutiers ont réalisé des dégâts considérables en Nouvelle-Calédonie. Donc cet État doit être aujourd'hui avec nous, doit nous aider à nous redresser, à nous relever et ne pas faire que nous enfoncions davantage. C'est indispensable parce que le temps politique n'est pas le temps économique. Les entreprises, elles souffrent, tous. Il y a des gens qui sont au bout du rouleau et qui ne pourront pas tenir encore très longtemps. Certains sont sur leurs économies personnelles, sur leurs fonds propres. Donc nous attendons effectivement à la fois une politique d'engagement, d'investissement, de relance. Et puis, et c'est terrible, aujourd'hui l'État nous dit « Vous ne devez pas dépenser, faire une dépense, un franc de dépense non compensé par un franc de recette qui compenserait ces dépenses à chacune des séances publiques du Congrès. Vendredi dernier, séance publique du Congrès, nous assistons à une incohérence totale. On devait, vous savez, on avait un problème sur la redevance d'extraction minière qui rapporte de l'argent à la Nouvelle-Calédonie. On a un problème juridique là-dessus. Des collègues au Congrès s'en sont emparés et étaient là pour proposer un texte qui mettait en raccord ce texte juridiquement, qui corrigeait ce texte juridiquement de façon à ce qu'il soit possiblement mis en place, qu'il y avait des recours potentiels des mineurs sur ce texte qui pouvaient le faire tomber. Or, cette redevance est importante, c'est une source de recettes importante pour la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, on a constaté que dans la nouvelle version juridique, cette recette, elle était inférieure de 19 millions par rapport à l'ancienne recette que l'on avait prévue en calant juridiquement. Ce n'est rien, 19 millions par rapport à la somme totale que rapporte cette redevance d'extraction. Eh bien, nous n'avons pas pu voter le texte du fait de ce que nous impose l'État. Si vous voulez, c'est aberrant, c'est chaotique. Et puis par ailleurs, on l'a vu sur les prêts, le prêt garanti par l'État qui nous est fait, nous empruntons à l'État aujourd'hui. Nous empruntons avec des remboursements d'intérêts intercalaires qui sont colossaux. Hein, les intérêts sur ces prêts sont colossaux. C'est très important pour la Nouvelle-Calédonie. Nous empruntons, mais en même temps, l'État dicte au mot près la façon dont nous engageons en fait ces fonds en termes de dépenses, en termes d'investissement. Enfin, voilà,
On sent cette irritation de tous les élus calédoniens, d'ailleurs, enfin, oui. Quel que soit leur banc. C'est l'un des sujets que vous allez pouvoir aborder frontalement avec la ministre, lui expliquer les choses, essayer de redresser un peu la barre sur ce plan-là.
Mais bien sûr. Il faut absolument que l'État soit accompagnant. Alors, je comprends bien que tant qu'il n'y a pas d'accord pour la Nouvelle-Calédonie, l'État, il dit, nous, on veut bien aider aussi, mais s'il y a un accord, et c'est normal, hein, parce qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'accord, c'est compliqué pour l'État. Il nous dit de faire le travail. Sauf que nous, on a fait le boulot, on a fait le job. Maintenant, on attend que les derniers se remettent autour de la table et disent ce qu'ils veulent. Et ça fait X fois qu'ils en sortent et qu'ils rentrent dans la table. Et puis bon, vous savez, il y a des choses dont on se passerait bien. Hein, parce que de la part l'UCF-ADNKS, une motion de censure du président du gouvernement, Alcide Ponga, dans cette période... Tout ça sur des motifs complètement fallacieux, c'est de la pure gesticulation. En fait, on est dans un modèle de déconstruction, alors que là, on a besoin de reconstruire, au contraire. On a besoin de construire, de relever la société calédonienne.
Motion de censure contre le gouvernement d'Alcide Ponga, qui, a priori, n'a pas de chance de passer. C'est une gesticulation, comme vous le disiez, de la part de l'UCF ADNKS.
Oui, mais je crois que... J'espère que non, et je crois que non, véritablement. Mais je pense que le temps n'est pas à la gesticulation politique. Le temps est à la prise de responsabilité de tous les élus calédoniens pour sortir les habitants de la Nouvelle-Calédonie de la situation difficile dans laquelle chacune et chacun se trouve. Des familles en difficulté, un système de santé effondré, des gens qui n'ont plus de travail, du chômage qui va s'arrêter à un moment donné parce qu'on ne pourra plus éternellement payer chômage. Vous voyez, c'est tout ça, et ça devrait nous unir, nous devrions être unis là-dessus. Et puis, en plus... On nous dit, au travers de la motion de censure d'Alcide Ponga, que ça serait parce qu'Alcide serait complice de l'État, grosso modo. Alors ça, je rigole bien, parce que vraiment, on reproche aux indépendantistes de nous avoir rendus énormément dépendants de la France ces dernières années. Et les émeutes nous ont rendus encore plus dépendants des deniers de la République française. Alors qu'au contraire, nous aurions pu développer la Calédonie de façon à être économiquement, financièrement, très autonome dans ce pays, car nous avons le potentiel pour cela.
Et au niveau national, qu'est-ce que vous pensez de l'instabilité politique qui, là aussi, est une réalité ? Est-ce que c'est un risque pour la mise en œuvre de Bougival et puis de la suite du processus ? On ne sait pas si le gouvernement va tenir encore quelques semaines, quelques mois.
Oui, c'est un handicap et un frein puissant au règlement de notre situation institutionnelle, politique et économique, en effet. On ne sait pas si un budget pourrait être voté au niveau de l'Assemblée nationale. On voit un peu les postures des uns et des autres. Et on imagine bien que si le budget ne pouvait pas être voté au niveau national, on irait peut-être à nouveau vers des motions de censure du gouvernement national et qu'il pourrait aussi y avoir une dissolution. Et tout cela, effectivement, complexifie énormément notre sortie de crise calédonienne. Parce que notre situation est compliquée, mais quand on rajoute le national, qui est un vrai partenaire, hein, l'État est un partenaire des accords, eh bien, quand ce partenaire est freiné par cette instabilité-là, c'est à nouveau des freins pour nous. Mais écoutez, vous savez, on ne peut pas maîtriser ce qui se passe au niveau national, d'accord ? Ça nous échappe. Mais ce que nous pouvons maîtriser, c'est notre responsabilité propre d'élus calédoniens. C'est pour ça que j'engage vraiment tous les élus que nous sommes, y compris ceux qui aujourd'hui sont sortis de la table, à revenir vers une discussion responsable, cohérente et surtout quelque chose qui est vecteur de paix, d'apaisement et de visibilité pour l'ensemble de nos populations.
Virginie Rufnacht, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'accepter votre invitation.
Merci à vous.